le grand dialogue
sigi kafoba
et de wani wa makaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni beri
halud mawdi
chenni beri sigi kafoba
le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est d'élections que nous allons parler dans le grand dialogue de ce mercredi, et plus précisément des lois électorales. En effet, c'est hier que les députés de l'Assemblée nationale ont examiné le nouveau projet de loi électorale, un projet de loi qui annonce donc des changements notoires. C'est ainsi que les découle. Le document prévoit de faire passer la caution pour l'élection présidentielle de 10 millions de francs CFA à 35 millions de francs CFA, de même que Le parrainage de chaque candidat par un nombre de 15 députés et 5 conseillers nationaux. Alors, sur quoi repose cette volonté de changer la loi électorale? Que pourrait apporter les changements annoncés au système démocratique malien? Comment la classe politique apprécie-t-elle le projet de loi en question? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons adresser, nous allons partager donc avec nos invités qui sont Onoura Boubacar Sissoko, puisqu'il est député RP. Monsieur Soko, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons Nuhusa, le président du Front africain pour le développement et l'opposition. Monsieur Sar, bonsoir.
Bonsoir.
Également présent dans ce studio, Draman Diara, le président du réseau d'appui au processus électoral. Après, Monsieur Diara, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, dans un moment à l'autre, nous pourrons avoir en ligne, nous l'aurons certainement, Cheikh Oumar Diallo, qui est de ADP Maliba. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba.
Le grand dialogue.
À toutes et à tous, bienvenue. Alors, je vous le disais en introduction, la loi électorale de 2006 va être en principe remplacée par une nouvelle loi dont le projet a été examiné hier par les élus de la nation. Première question, la loi électorale de 2006 serait-elle désormais caduque? Je pose la question à vous, M. Sar. Nous, Sar, donc, qui est du Front africain pour le développement.
Merci beaucoup, Monsieur Fomba. Merci à Studio Tamani pour ce débat. Pour répondre directement à votre question, la loi de 2006 n'est pas encore caduque parce que le nouveau projet de loi sur la table de l'Assemblée nationale n'a pas encore été adopté de façon officielle.
Elle n'a pas adopté, ce qui ne prouve pas que la loi est caduque. Une fois qu'on fait une proposition, puisque si on vient avec un projet de loi... Alors, électoral, ça veut dire qu'il y a quand même quelque part un problème, qu'il y a des choses à changer.
Il y a certes une volonté de changer cette loi, qui, de notre point de vue, est une volonté très mal inspirée, parce que nous estimons que le Mali est un État démocratique et personne ne peut s'arroger le droit de juger de l'opportunité d'une candidature ou pas. Avant de rentrer dans le détail de cette loi, il incombe de rétablir un certain nombre de choses. Le ministère de l'administration territoriale a mis en place avec les partis politiques, certains partis politiques, parce que ce n'était pas tous les partis politiques, un comité chargé d'élaborer, de faire une proposition de projet de loi électorale. Je voudrais dire ici que ce comité ayant travaillé a déposé un rapport qui ne reflète pas, je cite Temore Chulenta, qui est le rapporteur du dit comité, ce rapport ne reflète pas le projet de loi aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale.
Alors, nous allons à présent nous tourner du côté de Boubacar Sissoko, qui est député RPM. Honorable, dites-nous, changer la loi électorale au Mali, c'est une nécessité aujourd'hui?
Bonsoir, M. Fomba. Je profite de cette occasion pour adresser mes vives salutations à tout l'auditoire de Studio Tamani. Vous remerciez vous-même pour nous avoir donné l'opportunité d'apporter des éclairages sur un sujet aussi brûlant de la nation aujourd'hui. Vous savez, c'est la loi numéro 06-044 du 4 septembre qui gérait les élections en République du Mali. De son adoption à aujourd'hui, cette loi a subi beaucoup de modifications pour prendre en compte les préoccupations convenues entre le gouvernement, la classe politique, la société civile. Vous savez, nous sommes dans un contexte aujourd'hui spécial. Le Mali était dans une situation de guerre. Et je peux même dire que nous sommes en guerre. L'État n'existait pas presque dans les années 92 jusqu'à 93. Grâce à des efforts, nous sommes arrivés à décrocher le 15 mai et le 20 juin un accord a été signé, accord issu des processus d'Alger. Et cet accord a amené des nouvelles exigences qui ont suscité, qui nous imposent aujourd'hui la relecture de cette loi. Donc c'est vraiment pour prendre en compte ces exigences-là et corriger les insuffisances institutionnelles qu'impose l'accord de paix d'Alger que le gouvernement a vu l'opportunité, la nécessité de relire la loi 06-044 du 4 septembre pour se faire autour du ministre de l'administration territoriale, M. Sall vient de le dire. Un comité a été mis sur place. Le dit comité est composé de toutes les composantes. L'opposition, la majorité, les partis centristes, la société civile. Et pendant de longues mois, il y a eu une réflexion, il y a eu la rédaction pour aboutir à ce texte-là aujourd'hui, qui a suivi, je le rappelle, tout le circuit nécessaire pour arriver le 15 juin au niveau du Conseil des ministres pour son adoption. Effectivement, ce projet aujourd'hui est au niveau de l'Assemblée nationale et dès son arrivée, il a été orienté vers une commission spécialisée, dite commission de loi au niveau de l'Assemblée nationale, qui a procédé à l'identification des personnes ressources pour organiser les différentes écoutes autour de ce projet pour une meilleure compréhension afin d'éclairer la lanterne des autres députés pour arriver à son adoption.
Alors maintenant, nous allons demander à Draman Diarra de l'APM de nous dire s'il pense que c'est aujourd'hui une nécessité absolue de changer la loi électorale.
Merci à vous, merci à Sidio Tamani, Fondation Hirondelle et tous vos partenaires. Et bonsoir à tout le monde. C'est vrai qu'on nous a habitués depuis un certain temps à chaque fois modifier la loi électorale à la veille d'échéances de consultation électorale. C'est ce qui fait que, effectivement, depuis quelques années, on a constaté à la modification de cette loi de 2006.
Oui, mais dites-nous déjà, est-ce que c'est le moment qui convient quand même pour procéder à ce genre de modification quand on n'est plus très loin des échéances? Ça ne pose pas problème?
Bon, déjà, je crois qu'il y a problème depuis un certain temps parce que avec le report intempestif des échéances prévues, nous sommes finalement dans un cycle d'imprévus. Mais ce qui est sûr, par rapport à la présente modification de loi électorale, il y a un comité qui avait été convié pour ce faire. Et contrairement à ce qui se dit sur ce plateau et même souvent en dehors du plateau, j'ai entendu même en Conseil des ministres, on a dit que après consultation de la société civile, je me porte en faux contre cet état de fait. En fait, le comité était composé uniquement des politiques et des cadres de l'administration territoriale. Donc la société civile n'en a pas fait partie. Au-delà de ça, il y avait un cadre de concertation entre le ministère de l'administration territoriale et la société civile. Ce cadre n'a pas été animé pendant le temps qui a prévalu par rapport aux travaux de ce comité par rapport à la révision de la loi électorale. Donc ça, c'est une vérité qu'on se doit de rétablir ici. La société civile n'a pas été associée. Cependant, je pense que l'Assemblée est en passe, en tout cas, de rétablir les choses dans leur contexte en essayant quand même d'écouter certaines structures de la société civile au niveau de la commission des lois constitutionnelles, notamment la nôtre, le réseau APEM. Donc je pense qu'à ce moment, nous serons à même de dire tout ce que nous avons par rapport à ce projet-là. Okay. Est-ce une nécessité absolue? Je ne suis pas sûr que ce soit au regard quand même des nouveautés qui apparaissent dans ce projet de loi, et je ne suis pas sûr que ce soit une nécessité absolue. Parce qu'on parle beaucoup des accords et de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Si ce n'est pas l'aspect qui a trait à l'élection de certains élus au niveau des collectivités territoriales au suffrage universel direct, si ce n'est pas cet aspect-là, il y a peu d'aspects qui relèvent quand même de l'accord. Donc, je suis sûr qu'il y a d'autres aspects qui sont évoqués dans la loi électorale, notamment par rapport à l'élection présidentielle, qui va plutôt focaliser l'attention de notre débat. Et voilà, et c'est ce qui va faire débat, effectivement.
Mmh. Alors, nous allons demander à vous, Nuhu Sarr, vous qui êtes le président du Front africain pour le développement. Alors, il y a eu cette commission. Dans cette commission étaient représentés l'opposition et la majorité, si j'ai bien compris.
Oui, certains partis de l'opposition étaient représentés. Notre parti n'était pas représenté à cette commission. Mmh. Mais ceci dit, cette commission a déposé un rapport qui est le contraire du document aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale.
Mais comment expliquer cela? Une commission qui travaille, un rapport en sort.
C'est que quelqu'un a triché quelque part, quelqu'un a falsifié quelque chose. Le rapporteur de cette commission, Temore Tchoulenta, a dit lors de la rencontre ministre de l'Aménagement territorial et parti politique, il a dit à la face du ministre qu'il ne se reconnaît pas. La commission ne se reconnaît pas dans ce projet de loi.
Vous voulez dire que c'est le rapporteur lui-même qui ne se reconnaît pas dans les rapports?
La commission ne se reconnaît pas parce qu'en tant que rapporteur de cette commission, mm-hmm. il a dit que ce n'est pas ce qu'ils ont dit, ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Maintenant, si nous rentrons, nous sortons de ça, que nous rentrons dans la loi en tant que telle, au regard des grands changements, parce que pour moi, les grands changements interviennent au niveau des élections présidentielles. La caution qui passe de 10 millions à 35 millions, le parrainage qui passe de 10 à 15 et 5 conseillers nationaux, cela dénote d'une volonté de verrouiller.
Voilà, nous allons revenir à cet aspect de ce débat dans quelques minutes, le temps d'observer une courte pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, je rappelle que nous parlons d'élections et plutôt de lois électorales avec le projet de loi électorale qui est examiné par l'Assemblée nationale. Nous en parlons avec Boubacar Soko, qui est député RPM, Nuhu Sarr, qui est du Front africain pour le développement, et Dramane Diarra, le président du réseau d'appui au processus électoral. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas pu joindre Cheikh Oumar Diallo, qui est de l'ADP et Maliba. Nous avons écouté Sarr, qui est donc de l'opposition. À présent, nous allons donner la parole à M. Sissoko. M. Sissoko, on l'a dit, l'opposition qui était là, qui était membre de cette commission, il y avait effectivement la majorité, évidemment, mais M. Diarra vient de le signaler, contrairement à ce qui s'est dit, il paraît qu'il y a problème, il paraît que la société civile n'était pas représentée, ou alors serait, peut-être c'est une infime partie qui a été, je ne sais pas.
Bon, moi je m'inscris en faux par rapport à ce que je viens d'entendre. Je suis député. Cette commission de travail mise en place par le ministère de l'administration territoriale, je le dis, je réitère, a bel et bien compté parmi ses membres la société civile. La société civile ne se résume pas à son réseau.
Okay.
Si son réseau n'a
vous
pas
aurez été, l'occasion de dire à M. Diarra. Allez-y, honorable okay. aussi.
Je le dis, je le répète. De toute façon, nous savons tous ici, nous sommes intellectuels. L'élaboration d'un texte de loi, ce n'est pas le hasard, ça obéit à un processus. Et je pense bien que ce projet de loi de modification de la loi électorale a bel et bien suivi le circuit normal. C'est le résultat d'un travail collégial, je le répète, entre une équipe composée des partis de la majorité présidentielle, des partis de l'opposition, des partis qui se disent des centristes, de la société civile autour du gouvernement. par rapport à la nécessité, je l'ai rappelé, nous sommes dans un contexte exceptionnel. Nous avons souscrit à un accord. Cet accord nous impose des exigences qui ne sont pas faisables si nous ne revenons pas, si nous ne réalisons pas cette loi électorale. Ça, c'est quelque chose de partagé par tous. Ensuite, les grands changements, ils en ont dit. Je veux vous rappeler les grands changements que cette loi propose. D'abord, il y a l'institution du suffrage universel direct pour l'élection des conseillers de sexe. Il y a la prise en compte du genre. L'Assemblée nationale a voté le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. La définition des mentions complémentaires à porter sur les déclarations des candidatures à l'élection des députés en cas d'institution d'un système de suppléance à l'Assemblée nationale. Il y a le renforcement des conditions de législation des procurations de vote. Il y a la possibilité de transférer le siège de la Commission électorale nationale en tout autre lieu du territoire en cas de nécessité.
Alors, dites-nous, M. Sissoko, on va pas lire entièrement les textes.
Non, si c'est-à-dire, déjà... vraiment, vous, la presse, je voulais vraiment un truc d'impartialité. Je suis la première personne à être interrompue dans mon raisonnement. Le sujet est d'importance.
Écoutez, nous avons 45 minutes, allons tout droit au but, allons à l'essentiel, honorable.
L'essentiel, c'est ce que le peuple a besoin de savoir, les grandes innovations pour accepter, pour s'approprier de cette loi-là, les grandes innovations que cette loi apporte. Donc c'est pourquoi je dis, vraiment, vous souffrirez que je donne vraiment les grandes...
Donner les grandes lignes, mais les pas grandes lignes. Le texte en
Ensuite,
intégralité.
Ensuite, l'extension de toutes les élections des collectivités territoriales, de la possibilité d'organiser des élections en des dates différentes, en cas de nécessité. L'extension au secrétaire général, c'est-à-dire il y a certaines personnes, la liste a été prolongée. Je dis bien, aujourd'hui, il y a nécessité de relire cette loi électorale. Ce n'est pas la première fois qu'on relit une loi électorale au Mali.
Alors, M. Diarra, à présent, l'honorable vient nous parler un peu du contenu de ce projet de loi. Qu'est-ce que vous retenez là-dedans qui puisse faire en sorte qu'on prenne en charge les réalités du jour, les changements intervenus au pays, dans les pays pendant ces dernières années?
Avant de répondre par rapport à ces préoccupations majeures qui seraient prises en charge par cette loi-là, et j'insiste par rapport à ce que Honorable Sissoko vient de dire concernant l'inclusivité de ce projet de loi. Je le mets au défi de nous dire ici sur ce plateau quels sont les membres de la société civile qui ont fait partie de ce comité de révision de la loi électorale. Je le mets au défi de nous dire ici sur ce plateau quelles sont les structures de la société civile qui ont été consultées par rapport à cette loi électorale. Si ça a passé même en conseil des ministres, ça veut dire que c'est un mensonge à haut niveau, parce que ça n'a pas été fait. Et depuis le 2 février 2016, nous avons dénoncé et par écrit cet état de fait-là. Le fait que le ministre de l'administration territoriale a marginalisé la société civile quant à ce processus de révision de la loi électorale. Quels sont les éléments majeurs proposés? Il y a effectivement... Nous n'en sommes pas encore à l'élection présidentielle, mais il y a des dispositions qui touchent. D'ailleurs, je crois que s'il y a des tollés aujourd'hui par rapport à cette loi, il s'agit de ces dispositions de l'article 147 qui touchent aux conditions de candidature par rapport à l'élection du président de la République. Il s'agit, entre autres, de la caution qui passe dans les deux jours de la présentation de la candidature, la caution qui passe donc de 10 millions à 35 millions. Et je crois que les initiateurs de cette proposition-là auront du pain sur la planche.
Je voudrais justement poser la question, quand on passe à plus du triple de la question, de la caution, qu'est-ce que cela peut apporter? Qu'est-ce que ça va apporter d'important? Quel est le but visé ici?
Parce que là, je n'étais pas là-bas, parce que si j'étais là-bas, c'est sûr que ça n'allait pas être ma proposition. Parce que ce qui change, c'est le niveau de la caution, de 10 millions à 35 millions. Sinon, le fait que lorsque le candidat va recueillir 5% des suffrages exprimés, et il lui sera rétrocédé les 50% du montant de la caution déboursée. Donc ça ne change pas. Alors qu'est-ce qui change ici? Parce que moi je suis même peut-être contre ce principe-là. Parce que ça mercantilise. Ça mercantilise dans un pays comme le nôtre. Et on est en train de basculer dans le mercantilisme par rapport à l'organisation des élections chez nous. Et qu'est-ce qui va arriver? Parce que même si on met à 100 millions, des gens vont pouvoir amasser cette somme-là. Mais ça nous renvoie à quoi? C'est que les candidats peuvent rentrer dans des réseaux mafieux. Et lorsqu'ils sont dans ces réseaux mafieux, ils ne vont pas tarder à tomber. Le régime va tomber dans des magouilles, dans des détournements de fonds. Et puisque ceux qui étaient là en amont à appuyer le candidat vont être là pour recueillir, pour prendre leurs ressources par rapport à la gestion des affaires publiques. Alors, donc ce n'est pas forcément une bonne chose.
Non, Sar, nous allons vous poser la question qui est celle-ci. Est-ce que cette mesure qui consiste donc à faire passer la caution de 10 à 35 millions, est-ce qu'elle ne va pas surtout favoriser les candidats nantis au détriment des moyens nantis? Or, la fortune, elle est certes peut-être un critère, mais c'est un critère qui a des limites, non?
Absolument, cette disposition est très grave. Très grave en ce sens que comme vient de le dire mon grand frère Diarra, ça mercantilise le processus électoral. Aujourd'hui, quel professeur d'université peut rassembler 35 millions? Aujourd'hui, quel fonctionnaire malien qui, tout naturellement, a le droit de vouloir être président de la République peut amasser cette fortune? Nous avons dit que cette disposition dénote d'une volonté de verrouiller le système. Mais la conséquence est grave, parce que quand vous verrouillez le système à travers de pareilles dispositions, vous mettez un frein aux volontés légitimes des citoyens à vouloir accéder au pouvoir par des voies transparentes et légales, eh bien, vous augmentez la tentation à vouloir accéder au pouvoir par la force. Quant à l'augmentation du nombre de députés en ce qui concerne
on
le
Parlement. On justement, on
donc,
va en parler
dans un... Oui. La disposition, c'est ouvrir la porte à la mafia, c'est ouvrir la porte à toutes sortes de tricheries, de corruption. Pour nous, ce n'est pas acceptable et nous appelons le gouvernement de la République à retirer tout simplement ce projet de loi, à organiser dans le plus bref délai des concertations au plus large, au plus haut niveau, à engager un processus de congrès extraordinaire du peuple. Parce que cette loi n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est résoudre la question sécuritaire. L'urgence, c'est faire en sorte que l'économie redécolle. L'urgence, c'est amener la paix. Donc nous pensons que, vraiment, le temps n'est pas propice à de pareilles lois. Mais ce n'est pas une première. La loi sur les autorités intérimaires a été adoptée à l'Assemblée nationale. Ce que ça a donné, tout le monde sait. C'est aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité intérimaire. Donc, nous pensons qu'il est indispensable que le gouvernement de la République du Mali rassemble le plus rapidement possible l'ensemble des forces vives de la nation pour discuter de la refondation globale du pays et qu'on cesse de nous distraire très sincèrement.
Honorable Sissoko, n'y a-t-il pas effectivement de risque qu'avec le montant de la caution annoncée, la course à la présidence tourne à une course destinée aux seuls riches?
Bon, moi, je ne vois pas la chose dans ce sens-là. Je pense que la fonction de président de la République n'est pas une fonction banale. Ce n'est vraiment pas une fonction banale. Cette disposition, je ne vois pas comment 35 millions, combien de Maliens sont en train de construire leur maison aujourd'hui à quoi de 35 millions? Beaucoup de personnes. Mais je le dis, je réitère. Le texte que nous avons aujourd'hui a obéi à un processus normal. Ce texte a passé devant la Cour suprême pour avis. Ce texte a passé devant la Cour constitutionnelle pour avis. Je le dis, la commission qui a été composée, ce n'est pas une commission composée seulement de la majorité présidentielle. Ce n'est pas une volonté, ce n'est pas un texte qui vient du ministre ou en tout cas du gouvernement. C'est le résultat d'une négociation, de concertation. Et la loi est venue à l'Assemblée nationale. Ça a été orienté dans une commission spécialisée de l'Assemblée nationale. Cette commission regroupe des députés de l'opposition, des députés de la majorité. Donc les cadres sont vraiment bien tracés. Je trouve que la porte n'est même pas verrouillée, parce que la loi n'a pas encore été adoptée par l'Assemblée nationale.
Alors, monsieur Soko, mais qu'est-ce que concrètement...
Vraiment, je ne voudrais... Si vous voulez, moi, je peux arrêter, parce que je constate que je suis le seul...
Monsieur, nous sommes dans un débat,
Écoutez,
on va se comprendre.
Non, je sais, ce n'est pas ma première fois de participer à votre combat, mais monsieur Fomba, je pense que beaucoup de choses ont été dites ici, vous n'avez pas interrompu.
Écoutez, il y a des questions qu'on appelle chez nous, des questions qui surviennent au cours du débat, et ça n'a jamais été...
Et ces questions,
se pose à quelqu'un.
Ces questions, il y a eu même de l'anticipation.
Alors, répondez à votre question.
Et justement, nous sommes dans un processus de raisonnement. Et un intellectuel a besoin de raisonnement.
Oui, mais un discours n'est pas un discours. Allez-y,
monsieur. Je n'ai vraiment pas fait de discours. Je suis en train de dire que la commission spécialisée de l'Assemblée est constituée de l'opposition, des députés de l'opposition, des députés de la majorité. N'est pas un discours. Ça, c'est un fait. Et tout le monde a son représentant. Le citoyen lambda a la possibilité de se faire entendre au niveau de cette commission en y déposant les propositions d'amendement. Cette proposition est venue du gouvernement. L'analyse au fond, l'étude au fond revient à la commission spécialisée de l'Assemblée nationale et tous les citoyens qui se sentent vraiment intéressés par la situation peuvent déposer ou se faire constituer partie pour être entendus, pour qu'on puisse prendre leurs préoccupations en compte. Donc je pense que les cadres sont vraiment bien tracés. Je ne vois pas de tentative de verrouillement de cette situation. Restons dans les cadres, utilisons les cadres légalement mis à notre disposition pour poser nos problèmes et débattre de nos problèmes de façon plus simple, plus vraiment responsable. Voilà.
Alors, Studio Tamani, la suite de cette émission dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le projet de loi électorale examiné par l'Assemblée nationale hier, c'est de cela que nous parlons dans le grand dialogue de ce mercredi. À présent, nous allons aborder cet aspect du débat. Ça, c'est le second élément qui retient l'attention. C'est le parrainage de chaque candidat par 15 députés et 5 conseillers nationaux. Là aussi, les chiffres ont grimpé. Quelle explication avez-vous à donner à cela, M. Diarra?
Effectivement, comme vous le dites, anciennement, disons plutôt présentement, la nouvelle loi n'est pas adoptée encore. Donc présentement, c'est 10 députés et 5 élus communaux et dans chaque région et le district de Bamako et qu'il fallait recueillir pour voir valider sa candidature. Maintenant, dans l'actuel projet de loi, ceci doit passer à 15 députés au moins et 5 élus nationaux, pas communaux cette fois-ci, mais nationaux. Donc il y a un durcissement à ce niveau-là.
Mais c'est un élément positif, M. Diarra?
Je ne pense pas. D'abord, même le parrainage qui est en cours présentement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on spolie les populations en faveur des élus par rapport à ces droits-là. Parce qu'une démocratie, avant tout, c'est le citoyen. Donc, on sait, lorsqu'on transfère et tout ce rôle-là, ça c'est le rôle primordial qui revient aux citoyens, désigner les représentants. Mais lorsque pour le président de la République, on va faire en sorte que le jeu se fasse au niveau des élus nationaux et des députés, simplement. Et on est en train là de transgresser le citoyen dans son droit le plus fondamental. Et pourquoi? Parce que nous voyons, chaque fois qu'il s'est agi, vous le constatez avec nous, quand il s'agit d'élire des maires sous l'emprise des lois jusqu'à présent, quand les magouilles qui entourent ces processus de désignation-là, vous le savez, la constitution des groupes parlementaires, le nomadisme que vous voyez là, lorsque nous savons que notre l'environnement des élus au Mali aujourd'hui est constitué de telle tare là, on ne peut pas ramener le jeu pour la désignation du président de la République au niveau de ces élus. C'est une injure ici qu'on est en train de faire aux populations. Donc, si on a besoin d'une caution populaire pour la présentation des candidats, il faut recourir à un certain nombre de citoyens. Ça, c'est plus simple. Mais on ne va pas ramener le jeu au seul politique. Ça, c'est inadmissible.
Alors, maintenant, vous, nous, Sarr, on va vous poser la même question. En ces termes, le système de parrainage qui se renforcerait avec la nouvelle loi attendue, comment est-ce que ce système a d'ailleurs fonctionné jusqu'ici? Quelle est son utilité dans le contexte malien?
Encore une fois, je réitère, que ce soit la caution, que ce soit le parrainage, c'est une volonté de verrouiller. Dans toute démocratie, il y a certes la preuve d'une légitimité. Dans les grandes démocraties, on a souvent recours au parrainage citoyen, comme vient de le dire le grand frère Diarra. Le parrainage citoyen nous semble être plus approprié. Aujourd'hui, quand on regarde la configuration politique du Mali, il n'y a mathématiquement que trois partis politiques qui ont le nombre de députés requis pour être parrainés. Cela n'est pas une chose acceptable de notre point de vue. Aussi, une loi n'a de sens que quand elle prend en compte le contexte général dans lequel il doit s'appliquer. Le contexte aujourd'hui est un contexte malheureusement est ce que vous savez malheureusement. Donc, nous voulons dire ici que verrouiller le système, c'est préparer le terrain à la prise du pouvoir par la force. Ceci n'est pas acceptable. Donc, nous interpellons les honorables députés, nous interpellons le gouvernement qu'il revoie le plus rapidement possible cette copie. Parce que le citoyen lambda qui, en exprimant ses convictions, a besoin de recourir au suffrage universel pour accéder à la fonction suprême de chef de l'État, eh bien, il a le droit parce que depuis 1991, le Mali a opté pour la démocratie et le multipartisme intégral. Personne ne peut s'arroger le droit. Maintenant, l'une des raisons, quand vous discutez avec les défenseurs de cette loi, on dit oui, il est temps de diminuer les candidatures farfelues. Mais soyons sérieux. De quel droit on peut s'arroger pour qualifier une candidature de farfelue ou pas? De quel droit? Donc nous estimons encore une fois, M. Fomba, qu'il est impératif que le gouvernement et l'Assemblée nationale. Pour terminer sur cette partie, l'honorable a dit que les amendements sont en train d'être faits, il y a la possibilité d'amendements, mais il faut qu'on dise la vérité. Le gouvernement n'a aucun respect pour cette Assemblée nationale. Lorsque les autorités intérimaires, il y a eu des amendements, il y a eu de grands changements à l'Assemblée nationale, mais c'est toute autre chose qui a été vue sur le terrain. Donc, cela dénote d'une absence totale de respect du gouvernement à l'endroit de ces députés que moi je connais. Je connais beaucoup d'entre eux qui sont des gens très respectables.
Alors, Bouaka Sissoko du RPM, qu'est-ce que vous pensez du renforcement du système de parrainage?
D'abord, je tiens à rectifier mon prédécesseur. C'est de très bons rapports de respect mutuel entre l'Assemblée et le gouvernement. L'Assemblée nationale n'a jamais fait de propositions. Vous savez, faire des propositions obéit à des processus. Le gouvernement peut faire des propositions, des projets, les députés peuvent faire des propositions. Et c'est le texte travaillé final à l'acceptation des partis qui est adopté par la loi et promulgué par le président de la République. Donc nous sommes en très bonne entente, nous sommes vraiment en phase avec le gouvernement. Maintenant, par rapport au parrainage, vous voyez, ces élus sont les représentants de la nation. Aujourd'hui, pour être député, il faut avoir la confiance d'une tranche de 60 000 personnes. Ça, ce n'est rien. Ce n'est pas rien, ça. Un élu,
c'est une marque de confiance. N'est pas élu qui veut. Et nous sommes là, nous parlons au nom de la nation. Dans certains régimes, il y a le parlementarisme. Le Mali n'a pas député comme ça. Le premier président de la République n'a pas été élu comme le système qu'ils sont en train de défendre. Donc vouloir minimiser le rôle des élus nationaux, le rôle de l'Assemblée nationale par rapport au parrainage, ça c'est l'anti-parlementarisme. Et au Mali, le poste de député, c'est le poste le plus convoité. Maintenant, une loi, c'est pour le présent et c'est pour le futur. On ne prend pas une loi parce qu'il y a telle configuration à l'Assemblée. Aucune configuration n'est figée, n'est fixe au niveau de l'Assemblée nationale. Toutes les élections ont leur réalité. Quand on fait une loi, comme je dis, c'est pour gérer le présent et gérer le futur. Tous les partis ont concouru dans les mêmes conditions de sens. Aucun parti n'a été censuré pour la présentation des candidatures aux législatives.
Alors, honorable, ce que je crois que vous avez été compris par les auditeurs, nous allons passer à la question suivante. Puisqu'il est question d'élection, maintenant nous allons donner la parole à vous, Dramane Diarra. Et puisqu'il est question d'élection, il y a eu un calendrier électoral qui a été avancé. Ce dernier calendrier proposé, est-ce qu'il tient toujours? Et que dites-vous, surtout, de la mise en place des autorités intérimaires? Chacun a une minute.
Le calendrier peut tenir pour une partie du pays, mais pas pour l'ensemble du pays. Vous l'avez dit vous-même, lorsque on constate qu'on est en plein dans la mise en place des autorités intérimaires qui doivent, dans les 5 régions du Nord, et ces autorités intérimaires doivent participer à l'organisation du scrutin dans ces contrées-là. Donc, on remarque tout simplement que le calendrier ne peut pas tenir dans ces localités-là, parce que l'administration n'y est pas, et les autorités intérimaires ne sont même pas aussi effectivement installées. Donc, le calendrier est intenable. Comme le dit Sissoko, le gouvernement aurait été assez courageux de dire tout simplement qu'il convoquait le collège électoral dans certaines parties du pays et non dans d'autres, tout simplement. Il a dit, la loi donne cette possibilité, mais la loi dit que c'est en cas de nécessité. Et même cette nécessité aussi ne doit pas transgresser la question d'intégrité territoriale, la question de souveraineté nationale. Donc ça, c'est bien précis.
Par rapport à d'autres élections, encore une fois, nous disons qu'il faut arrêter la fuite en avant. Il faut vraiment arrêter d'improviser. Un État, c'est du sérieux. La question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir est-ce que les raisons qui ont été présentées pour les différents reports auxquels nous avons objet, est-ce que ces causes ont été résolues? Est-ce que ces problèmes ont été résolus? Malheureusement, non. La question sécuritaire est là. Nous avons la question de la présence des autorités. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans l'environnement actuel, opérer des élections, que ce soit de proximité, même si la loi le prévoit, dans certaines zones et pas dans d'autres zones, c'est consommer la partition du pays. Pour nous, cela n'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, oui, la loi prévoit des élections partielles. Oui, mais il y a le contexte, il y a la politique, le message politique. Quel message politique le gouvernement malien veut envoyer aux populations des localités où l'élection ne peut pas se dérouler? Quel message politique? C'est dire vous ne faites plus partie du Mali. Et par rapport aux autorités intérimaires, la jeunesse courageuse du Gao a répondu, on n'en veut pas. Pour ce qui est de notre parti, nous sommes l'un des 2 ou 3 partis ayant catégoriquement rejeté l'accord pour la paix et la réconciliation parce qu'il était anticonstitutionnel, antidémocratique, développant une approche ethniciste de la gestion des affaires, falsifiant l'histoire nationale. Ça ne passera pas.
Je pense que cette fois-ci, il y aura plus d'impartialité. Parce que...
Répondez, parce que c'est parce que vous appelez impartialité. Répondez, vous reste peu de temps.
Non, je sais, ce n'est pas la première fois. Oui. J'ai compris ce débat.
Je crois que c'est mieux de répondre à la question avant que le temps ne finisse, M. Sissoko.
Aujourd'hui, un gouvernement républicain est obligé de convoquer le collège électoral comme il l'a fait. Nous avons sous la main une loi, une proposition de loi. Cette proposition peut passer comme peut être rejetée. Si elle est rejetée, ça veut dire que c'est l'ancienne loi qui va gérer les élections. Et cette ancienne loi ne donne pas la possibilité au gouvernement de convoquer partiellement le collège électoral. Ensuite, on est obligé de tenir les élections. Vous savez, quand nous sommes au communal, le mandat du président de la République ne reste plus que 2 ans. Si les conditions sécuritaires ne s'amélioraient pas, et que le mandat du président de la République arrivait à terme, qu'allez-vous proposer?
On avisera.
Vous allez négocier avec qui
d'abord? Ensuite,
on avisera.
Ça veut dire qu'un État sérieux est prévoyant. C'est pourquoi cette situation, nous avons dit, il faut permettre à l'État d'organiser les élections à des dates différentes selon les cas, selon la nécessité qui se présente. Donc, tenir ces élections-là aujourd'hui, je pense qu'il faut accompagner le gouvernement pour sortir de cette situation de crise. Et je répète encore, ce n'est pas verrouillé, c'est une proposition. Si vous avez des amendements à faire, on vous prie d'apporter ces amendements-là au niveau de la commission chargée de l'étude au fond. Et je serai à l'aise. Si l'Assemblée rejetait vos propositions, en ce moment, on peut être dans la rue. Ben, vraiment, le pays est fragile. Ils ont vraiment des voies légales à niveau dans l'intox. Voilà, c'est ce que je pourrais dire.
Voilà, c'est sur ces propos que s'achève le grand dialogue de ce mercredi. Je rappelle que nous avons parlé du projet de loi électorale examiné par les députés à l'Assemblée nationale hier. On prépare au débat. Boubacar Sissoko, député RPM, Nouhoussar, le président du parti du Front africain pour le développement. Il est de l'opposition. Draman Diarra était également là dans ce studio. Il est le président du réseau d'appui au processus électoral. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. À la mise en onde, il y avait Gagné Kanté. Et de l'autre côté, régie vidéo, nous avons Salim Modjouara. Réalisation Mohamedou Touré. À la présentation, Seydou Fomba. On se retrouve donc demain pour un autre sujet. À demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halo Dmoundi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.